tous, c'est Kabadou avec vous dans votre émission interactive à votre avis. Comment gérer les ordures ménagères pour éviter le pire? La capitale sénégalaise était récemment couverte de déchets avec de nombreux restes de carcasses de moutons pour juste après donc la fête de l'Aïd, communément appelée Tabaski, décriée par les riverains et surtout par les professionnels du nettoiement qui étaient débordés dans cette période. Que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous satisfait du ramassage des ordures ménagères dans votre commune? Comment faire en sorte de rendre sa ville plus propre? C'est ce que nous allons c'est de ça que nous allons discuter ce soir. Et un seul numéro pour participer, le 001 202 205 26 33. Vous avez également la possibilité de laisser vos noms, vos coordonnées sur la page Facebook VOA Afrique. Alors, nous avons plusieurs invités pour en discuter ce soir. La situation, donc nous avons parlé de la situation au Sénégal, mais nous avons également eu des problèmes au Gabon où les éboueurs ont fait une grève et on aimerait pour en parler discuter avec Ismaël Obiangzi. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accorder votre temps. On aimerait que vous puissiez nous expliquer comment se trouve la situation aujourd'hui, car on sait que les éboueurs ont repris le travail. Comment s'est passée cette mobilisation et qu'en était-il de la ville avec toutes ces ordures?
Oui, les éboueurs ont repris le travail, mais il ne s'agit pas des éboueurs de la société qui était en conflit ouvert avec l'État gabonais. Oui, les éboueurs d'Averda ne sont toujours pas visibles à Libreville et ses environs. On croit savoir qu'il s'agit de la mise en exécution de la menace d'arrêt de prestation de leur entreprise. Averda a chargé de la collecte et du ramassage des ordures ménagères dans la capitale gabonaise. Ce qui a paru un moment comme un arrêt temporaire semble définitif, avec près de 700 employés désormais mis au garage. Averda, faut-il le rappeler, réclamait l'État gabonais le paiement d'une dette de 24 milliards de francs CFA sur 2 ans de prestation. Les deux parties ne sont pas visiblement parvenues à un compromis. On se rappelle, et vous m'avez posé la question de savoir comment se présente la situation au niveau de Libreville aujourd'hui, on se rappelle qu'à la veille de la fête nationale, le 17 août, souvenez-vous, l'État gabonais avait mis à contribution l'armée pour nettoyer la ville. La ville avait donc été débarrassée de ses ordures ménagères qui jonchaient partout, qui débordaient ça et là dans les différents quartiers, surtout dans les quartiers difficiles d'accès. La ville présentait donc un meilleur aspect pendant au moins 2 semaines et plus qu'aujourd'hui. Donc, cette situation a donc été relayée sur le terrain, disons au moins, a été relayée sur le terrain par d'autres prestataires de services. L'État a dû donc appeler au secours, à la rescousse. Et visiblement, la situation d'il y a un mois ne semble plus être la même aujourd'hui, c'est-à-dire Libreville, qui présentait donc des ordures ménagères un peu partout. Donc, c'est une ville relativement propre aujourd'hui.
Merci beaucoup Ismaël. Peut-être une dernière question, contribution de l'armée et d'autres prestataires privés. Mmh. Est-ce que ça a donné envie à la population de mettre la main à la pâte et d'aider ou pas nécessairement? Est-ce que d'autres initiatives plus, on va dire, citoyennes ont également vu le jour ou en tout cas se sont manifestées?
Non, visiblement pas d'initiative citoyenne de façon spontanée, mais on se rappelle quand même que depuis pratiquement 10 ans déjà, le gouvernement gabonais a initié une opération de nettoyage de principales capitales du pays, des principales villes du pays. On appelle cela une campagne citoyenne, la campagne citoyenne. Donc elle intervient souvent chaque dernier mercredi du mois et il faut peut-être attendre quand on est en début du mois de, bientôt en début du mois de septembre, pour voir encore ces opérations spontanées de collecte d'ordures ménagères à travers les différentes capitales du pays. Non, jamais. Après donc la cessation des prestations de services d'Averda, on a vu donc les citoyens eux-mêmes se mettre de façon spontanée dans la rue pour prendre le relais des initiatives déjà entreprises par l'armée gabonaise pour essayer de combler les vides laissés par Averda.
Merci beaucoup. Je rappelle que Ismaël Obiangzi est notre correspondant à Libreville. Excellente soirée à vous. Alors, les initiatives citoyennes, justement, parlons-en avec Sandra Idowu, qui est donc béninoise. Et depuis un certain temps, elle est à la tête, à l'initiative de Sachets Reloués. Bonsoir, Sandra.
Bonsoir.
Est-ce que vous nous expliquez
alors,
un petit peu...
Idosou,
j'ai mal écrit, mal prononcé, désolée. Voilà. Alors Sandra Idosou, est-ce que vous nous expliquez un peu en quoi consiste votre initiative?
Alors nous, il y a 2 ans, nous nous sommes mobilisés parce que, comme le disait votre correspondant tout à l'heure, la plupart de nos quartiers en Afrique, nous végétons un peu dans des saletés avec les déchets. On dit qu'on ne peut rien faire. C'est vrai qu'en tant que citoyen, on se sent pas forcément responsable de ce qui se passe dans nos quartiers. Mais nous, on a voulu pousser loin pour dire, est-ce que nous ne pouvons pas trouver des solutions? Et donc, nous avons lancé une campagne qui s'appelle « Sachez réélouer ». Réélouer dans notre langue locale, en fond, ça veut dire danger, malédiction. Et l'initiative, c'était pour sensibiliser nos populations face au fléau du sachet plastique. Comme vous le savez peut-être, vous savez, le sachet plastique se fabrique en 1 seconde. On l'utilise en 20 minutes, mais une fois qu'on a fini de l'utiliser, une fois qu'on l'a jeté, pendant 400 ans, il est dans la nature, il détruit notre environnement.
Tout à fait.
Il bouche nos canalisations parce que malheureusement, on n'a pas forcément de système de collecte de nos déchets. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait se mobiliser ensemble pour sensibiliser et surtout amener nos autorités aussi à...
Alors, les autorités à prendre aussi l'affaire de très très près. Restez avec nous en ligne. Un auditeur souhaite également apporter sa contribution. Il s'agit de Djara Kanyoumé, qui est donc de son village à Sonikeni, au Mali. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Etia. Bonsoir, Télévision de Véro Afrique. Et nous, les auditeurs, ça fait 2 jours. Hein.
Alors, de votre côté, est-ce que les déchets sont correctement traités à votre sens? Est-ce qu'il y a une sensibilisation que vous connaissez également de votre côté pour faire attention au niveau des sachets, etc.?
Oui, effectivement, c'est le même fléau qui roule dans mon pays, surtout au Capital Malien à Bamako. Souvent, même, il y a des ONG qui sont occupées de cette salubrité. Pour ramasser les chassés, il y a des gens qui ont ramassé les chassés pour payer un clé de chassé. Je pense que vraiment c'est 200 francs. Donc, ça a donné aussi courage à des gens pour ramasser les chassés. Donc, d'autres aussi, ils gardent dans leur couvert. Donc, je pense que vraiment, cette période, vraiment, il y a certaines parties, surtout à Bamako, c'est très très sale par rapport à des déchets toxiques. Donc, il faut imaginer que vraiment, l'État doit prendre sa responsabilité pour sensibiliser les gens. Sinon, il y a certaines quartiers à Bamako aujourd'hui, le temps, et vraiment, tu ne peux pas arriver là-bas. Même tu ne peux pas rouler moi, c'est bien dit, ou surtout les motos là-bas. Vraiment, j'ai encouragé la population avec le gouvernement pour qu'ils nous aident à vraiment sensibiliser les gens, pour informer les gens. Il faut que non, sans vraiment la propriété, je pense que vraiment les maladies ne peuvent pas finir en Afrique. Il faut imaginer le temps de cette période, moi, de tout, je pense que vraiment il y a des. Salut qui tombe les gens, surtout quand ils rentrent dans les hôpitaux du jour, tu vois que vraiment il y a beaucoup de gens qui ont tombé à cause des palais. Donc ça, au moins sur la propriété, je pense que vraiment les gens qui sont en train de donner les palais. Voilà, effectivement, surtout dans mon capital manuel, surtout vraiment après la tabassure, je pense que vraiment, quand les télés sont venus avec les moutons, avec les bœufs, je pense que vraiment et leur départ, je pense qu'ils n'ont pas ramassé les ordures. Même tout près à côté, au moins c'est 7 km. Les grands marchés de Dral, vers 18 km de Katé, je pense que vraiment, la salubrité qui est remplie là-bas dans les grands marchés. Donc, je pense que le gouvernement, vraiment, ne prend pas l'air sans gravité parce que ça va prendre au moins l'argent avec les piles par rapport à au moins ceci qui a au moins plusieurs baies. On discute les priorités avec l'État, mais l'État ne protège pas au moins les ordures pour que la santé doit augmenter, à mon avis, madame.
Merci beaucoup, Djara Kanyoumé, d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Une autre auditrice qui est au Mali, à Bamako, Mariam Koulibaly, bonsoir.
Oui, bonsoir, Ikea. Bonsoir à tous les auditeurs.
Vous avez pu entendre le message, en tout cas, de Djara Kanyoumé. Certaines personnes essaient de ramasser les sachets. Elles aimeraient que le gouvernement s'implique davantage. Le pays voisin, Côte d'Ivoire, c'est interdit d'utiliser les sachets. Certains l'utilisent quand même, mais c'est interdit. Qu'est-ce que vous imaginez pouvoir aider pour mieux traiter les ordures ménagères?
Moi, je souhaite mettre en projet une grande fabrique pour transformer les ordures. Et de ce fait, je vais
utiliser beaucoup de gens, beaucoup de chômeurs, parce qu'il y a assez d'ordures à Bamako pour produire du travail pour les jeunes diplômés et ceux qui sont au chômage.
Alors, votre idée est intéressante, hein, toujours en parlant de recyclage. On a diffusé tout dernièrement un sujet. Parlons d'une île créée à Abidjan à partir de bouteilles recyclées. Certains en font même des objets de décoration ou des objets de tous les jours, comme des chaises et des tables. Donc, votre idée est intéressante et on espère que le message passe. Et est-ce que vous êtes satisfaite du ramassage des ordures dans votre quartier ?
Oui. Et puis, il y a des gens qui ont des charrettes, il y a des gens qui ont des motos, les mototaxis. Ils utilisent beaucoup de jeunes et eux-mêmes, ils travaillent. Et du coup, ça contribue au nettoyage du quartier. Et moi-même, je fais chaque mois 1000 francs pour que quelqu'un vienne chercher mes ordures. Et vraiment, ça produit du travail.
Mariam Koulibaly, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre point de vue. On va de nouveau entendre Sandra. Sandra, rebonsoir.
Bonsoir.
Vous avez pu entendre l'expérience d'autres auditeurs au Mali, par exemple. Donc, par rapport aux sachets, il y a une mobilisation au Bénin qui est suivie. Vous dites que vous avez essayé de sensibiliser le gouvernement. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment vous faites pour sensibiliser autant ?
Alors, nous arrivons à sensibiliser parce que nous arrivons à mobiliser la population au travers de différentes activités. Nous faisons par exemple le eco-running, c'est-à-dire nous courons et nous ramassons les déchets plastiques et nous transformons après. Mais au-delà de la sensibilisation de nos populations, ce qu'il faut remarquer, c'est que si le gouvernement ne suit pas, si le gouvernement ne nous accompagne pas, ben, tout ce qu'on fait comme campagne de sensibilisation ne prendra pas. C'est bien de ramasser les déchets plastiques, mais c'est encore mieux s'il n'y avait pas de déchets plastiques. Et donc, pour nous, la sensibilisation doit être en amont, c'est-à-dire tout faire pour que nos populations n'aient pas accès aux sachets plastiques. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, nous avons une loi qui interdit les sachets plastiques. Cette loi a été promulguée. Cette loi prévoit de la répression. Et pourtant, nous avons tous les jours des quantités énormes de plastique qui rentrent dans le pays. Et donc, notre cri d'appel, c'est vraiment amener nos gouvernements à faire exactement ce que la loi prévoit, c'est-à-dire que la répression soit mise en place, que tous ces commerçants qui continuent...
Justement, les commerçants disent que les sachets de plastique sont moins chers. Qu'est-ce que vous préconisez pour qu'ils arrêtent d'acheter ces plastiques bon marché?
Alors, c'est moins cher parce qu'on pense à aujourd'hui, mais à long terme, ça nous coûte très cher. Parce que parlant, par exemple, de recycler ou de... Voilà,
mais les
de
commerçants ne recyclent pas. C'est ça le problème. Les commerçants ne recyclent pas et ne se rendent pas compte que ça fait partie de ce qu'ils cotisent à travers leurs impôts. Donc, comment les sensibiliser, eux, pour qu'ils n'achètent plus le sachet?
Moi, je pense qu'il faut déjà accompagner ceux qui proposent des solutions autres que le sachet plastique. Il faut, par exemple, que le gouvernement ou enfin ceux qui peuvent accompagner plus amener les promoteurs, ceux qui proposent par exemple du papier, ceux qui proposent par exemple des matières végétales, ceux qui proposent des solutions autres que le sachet, que ces promoteurs puissent avoir de l'accompagnement, qu'ils puissent avoir par exemple de l'exonération. Vous savez, moi j'ai vécu dans d'autres pays où la loi contre le sachet plastique a marché. Tout le monde parle aujourd'hui du Rwanda, qui est un des pays les plus propres au monde, et tout simplement parce qu'il y a eu de l'accompagnement par rapport à l'interdiction du sachet plastique. Il ne suffit pas de dire qu'on a voté une loi, mais qu'est-ce qu'on fait de façon concrète pour que les habitudes changent? On ne peut pas changer les habitudes si on ne leur propose pas des solutions. Et pour nous, des solutions, ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait des industries qui proposent du papier, il faut que ces industries aient de l'accompagnement fiscal, il faut par exemple de l'exonération. Donc, on pense que notre sensibilisation pense, bon, même si c'est juste quelques citoyens qui comprennent, mais pour que cette sensibilisation ait tout son impact.
Et puis pour les idées reçues, on peut aussi leur dire que les emballages en carton sont aussi solides et en plus sont bio. Donc, pourquoi pas les utiliser. Un auditeur sait également intervenir. On va l'écouter. Il s'agit d'Hassan Boulalet. Il est donc à Djibouti. Bonsoir.
bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, vous dites dans votre commentaire sur la page Facebook VOA Afrique, la propriété est l'affaire de tous. Que voulez-vous dire?
Oui, effectivement, c'est l'affaire de tous. C'est pas seulement l'État et le gouvernement qui doivent prendre des initiatives et des lois et également des actions et des actes qui pourraient éradiquer totalement les défis dans l'environnement et la pollution. Mais les communautés doivent travailler, la société civile doit travailler avec le gouvernement et mettre en place des initiatives pour essayer d'apporter, par exemple, de mettre en place des challenges, par exemple, le challenge civil, par exemple, pour mettre en place des mots d'ordre pour essayer de définir l'environnement dans tout ce pays africain. Parce qu'il faut dire que c'est quelque chose d'important lorsqu'il y a la prospérité dans un pays, le tourisme se développe et les gens arrivent à venir donc, etc. Et à se diversifier, nous avons par exemple le cas du Rwanda qui est de plus en plus réputé sur la conservation et la sauvegarde de l'environnement. Donc, il faut aussi de mettre en place des initiatives qui semblent positives pour nous et pour les générations futures. Parce que les générations futures, on va laisser. Et donc, à partir des étapes, on va laisser quelque chose qui est profitable pour eux, ça, on va détruire la planète. Et chacun doit prendre conscience de ça. La conscientisation, la sensibilisation des personnes est très importante.
Oui.
Et nous avons aussi des faits justement qui sont très importants en Afrique. Donc, si on fait, par exemple, des initiatives qui sont écologiques, mais également promoteurs d'emplois en Afrique, c'est important pour la jeunesse et pour les continents.
Merci beaucoup Hassan Boulalet d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Un auditeur au Sénégal, Aruna Baldé, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les effets de la VOA Afrique.
Alors nous avons diffusé sur nos antennes un reportage parlant de riverains se plaignant aux abords des abattoirs des restes de carcasses de moutons qui étaient vraiment nombreuses. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été confronté?
Non, exactement. Je pense que cela ne surprend pas ce qu'appelle le Sénégal la plus grande, la plus polluée, voilà, je dirais en Afrique, l'une des plus polluées en Afrique à travers ces déchets, que ça soit plastique, que ça soit les peaux de moutons après le lacet de Tabaski, ça devient un véritable calvaire ici à Dakar. Parce que les gens jettent les peaux de mouton un peu partout. D'ailleurs, le plus des cas, d'autres les jettent dans les canaux, dans le canot d'évacuation des eaux usées. Et je pense que cela touche là. Il y a un manque de sensibilisation qui est là aujourd'hui, même si le gouvernement est en train de faire des dépôts. Parce que je me rappelle avec les déchets plastiques, il y a 3 ans de cela, il y avait une interdiction totale d'utiliser des déchets plastiques non dégradables. Mais bon, ils ont fini par reculer parce que les boutiquiers avaient lancé un cri de cœur et ils ont cédé par rapport à cela. Et tout récemment aussi, j'ai vu que le gouvernement a fait une forte mobilisation pour lutter contre l'instabilité dans la capitale sénégalaise et dans les grandes villes. Même le président était devant, mais je pense qu'avec cela, cette mobilisation-là, il y aura un changement, quel que ça soit mentalement, que ça soit à travers le cadre de vie en quelque sorte. Et un exemple fatal que j'aimerais partager avec vous. Lorsque je revenais en voyage, bon, une fille, après avoir mangé la banane, elle a jeté la peau de banane. Le gendarme a immobilisé notre bus automatiquement, a demandé qui a jeté la peau de banane. Il a fallu que la fille se signale voilà, et qu'elle a descendu pour ramasser la peau de banane. Je me suis dit que maintenant, voilà, il y aura une évolution, il y aura un changement, que ce soit au niveau de comportement, que ce soit au niveau de mode de vie en quelque sorte.
Donc chacun doit faire sa part, c'est un peu le message qu'il faut retenir.
Exactement, puisque l'armée est impliquée, c'est-à-dire que voilà, les forces de l'ordre sont impliquées dedans, je pense que cela va faciliter vraiment au gouvernement et voilà, aux autorités de lutter contre l'instabilité dans les grandes villes du Sénégal, en quelque sorte.
Merci beaucoup, Aruna Baldé. On part tout de suite à Lubumbashi avec notre prochain auditeur. Il s'agit de Mave Chisambika. Bonsoir.
Bonsoir Zéro Afrique, bonsoir à tous les auditeurs qui sont en train de suivre en ce moment.
Alors de votre côté, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont sont traitées les ordures ménagères dans votre commune?
En fait, généralement, je suis en train de constater que le problème de l'insalubrité dans des grandes villes de mon pays, la RDC, reste un problème préoccupant. Justement, je suis en train de, j'étais en train de dire que c'est un problème nécessaire, un problème sérieux, voulais-je dire, qui nécessite beaucoup de sensibilisation des autorités vis-à-vis des populations qui, à un certain moment, ils ne sont pas instruites sur le plan de la gestion des ordures. À travers notre ville, Albomasso-Kinshasa et dans d'autres villes du pays, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'ordures, beaucoup de, comment je dirais, de déchets ménagers qui sont éparpillés à travers les villes. Alors tout ça, je suis en train de voir que c'est le problème qui plonge l'état de l'environnement, qui pose beaucoup de maladies vis-à-vis des personnes qui vivent dans certains environnements qui sont pollués. Alors, ici, je suis en train de noter que c'est le gouvernement, les gouvernements de nos pays respectifs du continent qui sont responsables par rapport à cette situation de déchets à travers le pays. Alors, j'étais en train de dire que si le gouvernement, les autorités prenaient en charge, sensibilisaient peut-être les populations par rapport à la gestion de ces déchets qui sont en train d'être éparpillés dans des avenues, dans des quartiers, dans des communes, alors ça sera peut-être une bonne méthode de pouvoir gérer les déchets. De l'autre côté, je pense aussi que la responsabilité revient aux populations elles-mêmes. Ici, je suis en train de constater que la population n'a pas la culture de gestion des déchets.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre avis. Malheureusement, je suis obligée de vous interrompre pour laisser parler Vincent Seounou. Bonsoir.
Oui, bonsoir, cher journaliste.
Vous, quelle est votre opinion concernant ce sujet?
Effectivement, dans mon pays, aucune ville n'est très propre. Aussi, le gouvernement n'aménage beaucoup de fois dans ce domaine. Il doit aménager beaucoup de fois. Parce que vous voyez, aujourd'hui, quand on constate que Cotonou, Abom et Calavi, Porto Nouveau, Paracourt, les villes à statut particulier, sont des villes qui sont impropres à voir physiquement, c'est aussi un problème fondamental. Et quand vous rentrez dans les villes, vraiment, il n'y a que des eaux usées qui coulent. Et aussi, des gens jettent de n'importe quoi sur les six villes. Moi, je veux que le gouvernement et aussi les ministères en charge de ces villes-là doivent prendre conscience de ces villes pour pouvoir sanctionner les auteurs et aussi recruter les agents pour pouvoir nettoyer ces villes chaque fois comme on constate dans les autres villes. Vous voyez, quand aujourd'hui on dit Washington, New York ou bien Paris, Berlin, Tokyo sont des villes que les gens veulent aller visiter. Les gens n'ont pas laissé ces villes comme ça. Et aussi, il faut que l'Afrique change son mentalité. Comme en Afrique du Sud, on constate aujourd'hui que Johannesburg et aussi le Cap sont des villes très propres. Et vous ne pouvez pas savoir que vraiment c'est des villes africaines. Et voilà pourquoi j'exhorte beaucoup de monde entier, aussi beaucoup de dirigeants à aller de l'avant pour pouvoir nettoyer et aussi agrandir ces villes.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre avis. Guillaume B. Valentin, au Tchad, dans mon quartier, le 7e arrondissement, les ordures font partie du bitumage de la route car les ordures sont déposées sur la route. Adolphe Kwabe lui dit à Kananga, en RDC, l'État doit créer une taxe spéciale d'évacuation de déchets auprès de toutes les entreprises, soit créer un office national d'évacuation de déchets. Merci infiniment pour votre écoute, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver sur notre site www.voaafrique. Un grand merci également à l'équipe technique composée, entre autres aujourd'hui, de Joselle Morissin et Firmin Max Koyaweda. C'était Ekia Badou et excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.